Vous écoutez
RMC.
Alors la Coupe du Monde, c'est dans 10 jours les amis. Je sais pas si ça frémit déjà un peu chez vous en France, pas tout à fait, pas vraiment. On a l'impression qu'elle arrive dans un mois seulement. Il a fallu laisser passer la finale de la Ligue des Champions pour commencer à entrer dedans. Il y a des matchs de préparation ce soir, l'Autriche face à la Tunisie, 0-0, mais l'Autriche réduite à 10 contre 11 après Konrad Leimer, le rouge qui s'est dont il a écopé à 37. Tu dis quoi,
Paulo ? 3 poteaux pour la Tunisie. J'ai rarement vu l'Autriche aussi mauvaise que ça. On m'expliquait que la Tunisie c'était très très moyen. Ce que je vois ce soir,
Tunisie, c'est très très moyen la Tunisie. En tout cas,
sur la dernière canne, c'est dégueulasse.
Autriche dégueulasse. C'est qu'un match de prépa. La Norvège a battu la Suède 3-1 avec un doublé de Jørgen Larsen, joueur de Crystal Palace, arrivé cet hiver, je crois, mon cher Julien, Crystal Palace, et Noussa de Leipzig. Qui marque pour la Norvège. Ah, je vous dis attention à la Norvège les amis. On en parle pas beaucoup.
Sans Haaland.
Sans Haaland ce soir.
On en parle beaucoup.
Sans Odegaard, on en parle beaucoup. Mais Odegaard, Haaland, comment tu dis Daniele?
En Italie, on en a parlé beaucoup.
Oui, bien sûr, évidemment. Ils vous ont mis 2 fois 4-1, c'est ça? 4-1 et sur le match retour, je sais plus.
3-1, je pense, sur le match retour, 4-1, mais 4-1 sur surtout retour, ils ont été largement supérieurs tous les deux fois, mais vraiment d'un autre niveau.
On parlera de la Norvège, et d'ailleurs vous pouvez écouter le podcast déjà en ligne sur YouTube, la chaîne de l'After, consacrée à la Norvège comme les 47 autres sélections. Alors, comment on parle de ce mondial? Vous allez vous engager les drôles de dames. Quel est votre favori dans cette compétition qui approche? C'est un petit jeu un peu puéril, mais qu'on aime bien faire quand même, savoir comment vous vous situez par rapport aux forces en présence. La sélection la mieux armée selon vous aujourd'hui, celle qui va confirmer son potentiel, ses résultats récents, la continuité ou surprendre. Je commence avec toi, Daniele, honneur à l'absent bien sûr. Daniele, qui tu vois gagner la Coupe du Monde 2026?
Merci, mais c'est banal peut-être de le dire, mais je pense que la France c'est l'équipe favori. Après, bien sûr, il y a l'Espagne qu'on a vu, elle a du potentiel, mais elle a peut-être aussi, si je ne me trompe pas, j'avais regardé comment ça pourrait finir les tableaux selon les premiers et les deuxièmes classifiés. Ils ont un bon côté de tableau. Et après, nous, en Italie, on va pour supporter le Brésil, pour Ancelotti. Les journaux, la Gazzetta, elles publient des nouvelles du Brésil, un peu comme si c'était notre deuxième équipe. Et moi, j'ai dit, attention, t'as dit attention à la Norvège, moi, j'ai dit attention au Japon. Au Japon.
Le Japon?
Moi, je le vois loin. Moi, je le vois même 8e, quart de
finale. Il y a un groupe difficile.
J'aime bien.
Pas gagné, mais pas pour gagner. Mais ils n'ont pas Mitoma, mais ils ont un système de jeu que, effectivement, même s'il n'y a pas Mitoma, ça ne change pas énormément.
Ils vont éliminer les Pays-Bas, c'est cool.
Alors, je précise, ils commenceront par les Pays-Bas, Tunisie ensuite, que tu regardes ce soir, Polo, et avant de finir face à la Suède dans cette phase de groupe du mondial. Tu es d'accord avec lui? Tu mets le Japon comme un outsider, Polo, toi aussi?
Ah oui, mais déjà ça fait quelques coupes du monde que le Japon se débrouille bien, puis ils ont une belle génération. Donc moi, si le Japon m'intéresse beaucoup, si ils arrivent à compenser physiquement parfois ce qui leur manque un petit peu, ils s'y font encore des. Mais c'est un groupe compliqué, attention. Hein, Suède, Suède, Pays-Bas, Japon, et puis j'en ai oublié un, et puis Tunisie, oui, et ça va falloir sortir. Hein.
Bon, quel est ton favori, Polo, toi, la Coupe du Monde?
Moi, je reste sur le championnat d'Europe. Donc, l'Espagne me semble toujours, au niveau du collectif, un petit peu au-dessus. La qualité individuelle des Français, elle est là, évidemment. L'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Le maillot jaune de la première semaine du Tour de France.
On va en parler avec Julien, mais ça veut dire quoi? Oui, l'Angleterre, ça reste l'Angleterre. Ça reste l'Angleterre qui ne gagnera malgré la.
Mais tu sais, j'ai commencé à regarder l'Angleterre dans les années 80. Et je crois que les Anglais ont un problème déjà avec leur représentation en fait de l'équipe nationale. Je suis pas persuadé que tous les Anglais soutiennent l'équipe nationale. Par exemple, les Allemands sont beaucoup plus nationalistes à ce niveau-là que les Anglais. Donc, je pense qu'il y a une identification au club qui est plus importante que pour la sélection. Et moi, quand je voyais à chaque fois les équipes anglaises, tu te dis mais attends, leur 11, ils vont aller loin, etc. Et à chaque fois, ils sautaient. À tel point que je trouve que moi, je rigolais quand on a inventé cette expression qu'on n'utilisait pas lorsque j'avais encore beaucoup de cheveux, qui était cette génération dorée. Tu vois, la génération dorée, c'est les équipes de losers en Allemagne, c'est tout. C'est pas, il y a eu la Coupe du Monde 66. Les Anglais, on nous dit, ils sortent en ce moment des joueurs tout le temps. Mais moi, je ne le vois pas spécialement collectivement par rapport à l'Espagne. L'Espagne est largement, au sens collectif, largement au-dessus des Anglais. Donc moi, j'en suis là en ce moment. Portugal peut-être peut faire quelque chose à une belle une belle génération.
Alors
l'Allemagne pour moi sur le papier est très compétitive, mais à chaque fois que je les vois jouer, j'ai l'impression qu'on ne joue pas une Coupe du Monde ou un championnat d'Europe, mais le championnat d'Europe espoir. Je commence à chaque fois, j'ai toujours pas mon 11 de départ, on l'a vu d'ailleurs, même si la victoire a été tranquille 4-0 hier, on voit que c'est le jeune Kahl qui a joué, il a mis Braun plutôt que Rome, il a évidemment Neuer est blessé, donc c'est Bowman qui était là, donc on n'a pas forcément le 11 de départ.
Également, il y a un devant devant, le doublé de devant, Denis Zulda, bien sûr.
Exactement. Et puis donc moi le problème c'est que si la France arrive trop tôt, ça risque d'être compliqué pour l'Allemagne. Mais c'est une équipe qui pourrait se révéler, c'est-à-dire qu'elle fait partie des favoris, mais ce n'est pas le favori en fait. Et elle a besoin, ça fait 10 ans quand même que l'Allemagne n'est pas allée en demi-finale d'une grande compétition, donc ça me semble important. Et ce que je trouve dommage, c'est que j'ai le sentiment que par rapport à l'Euro 2024 où l'Espagne avait battu, éliminé l'Allemagne, j'ai pas le sentiment que le gap s'est rétréci, et j'ai plutôt l'impression que le trou s'est creusé entre les Espagnols et les Allemands, mais c'est un avis évidemment très personnel envers la compétition. Et pour ma surprise, le Japon, ouais, évidemment. Je pensais à l'équipe que je suis en train de regarder ce soir, c'est l'Autriche. Moi, je voyais très bien l'Autriche. Mais alors, ce qu'ils font ce soir, c'est assez lamentable. Mais je vais rester sur eux. Pas de Coupe du Monde depuis 1998. Donc voilà. Et puis peut-être une équipe africaine. Je pense à la Côte d'Ivoire en particulier.
Au Sénégal aussi. Plus c'est Côte d'Ivoire.
Maroc,
Côte d'Ivoire. Sur moi, c'est plus Côte d'Ivoire. Moi. Ouais, Maroc ou Sénégal, plus que Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec toi, Julien. Voilà pour Polo. Tiens, ajoute la surprise également, Julien, toi. Commençons par ça. Si t'as une surprise qui sort du chapeau, c'est qui?
La Colombie pour moi.
La Colombie pour
moi. Norvège et la Colombie. La Norvège et Colombie, ou voir l'Équateur. Mais je trouve que l'Équateur, autant défensivement,
c'est
très fort.
Voilà.
Ouais. Autant offensivement, énervé.
Ah, j'allais donner l'Équateur, moi.
Alors pourquoi? Vas-y,
je comprends tout à fait.
À part la charnière, je veux du muscle également en Équateur. Vas-y, dis-moi.
Non, mais je pense que une Coupe du Monde, t'as pas besoin d'être flamboyant, et que ça va être une équipe extrêmement dure à jouer. Je veux dire, c'est une équipe qui a pris 5 buts en 18 matchs de qualification. Et ça, à la Coupe du Monde, je veux dire, t'as pas une seule équipe qui va être contente de jouer l'Équateur. T'as des équipes qui vont être un peu plus stressées que d'habitude, qui vont avoir du mal à développer leur jeu. Donc des fois, quand ton jeu est basé sur la solidité, même si effectivement au niveau de l'effectif, évidemment, t'as des joueurs phares, mais t'as peut-être moins de créateurs que dans d'autres équipes, ou peut-être qu'on va moins se régaler qu'avec d'autres équipes. Mais je pense que ça va être une équipe vraiment très très difficile à jouer, et surtout quand je regarde leur groupe, Curaçao, Allemagne, Côte d'Ivoire, c'est un groupe duquel ils peuvent se sortir. Et derrière, une fois que ça va être les matchs à élimination directe, encore une fois, c'est vraiment pas une équipe sur laquelle j'ai envie de tomber. Donc je pense que, alors évidemment, c'est pas une équipe pour aller gagner la Coupe du Monde, mais je pense que c'est une équipe qui peut être une petite surprise, pourquoi pas sortir un outsider au titre, et être une des belles histoires de la Coupe du Monde, même si je suis d'accord avec vous, ils ont des limites qui font que je les vois pas non plus aller au bout ou en demi, on est tous d'accord.
Et Julien, pourquoi deuxième?
Vas-y, Julien.
Des éliminatoires de la
tout à fait
de la zone.
Ah là, un dessus, deuxième des qualifications,
ils sont tous du Qatar, ils étaient déjà au Qatar quasiment à 90% le même effectif.
Exactement. On verra ça. Garde ton favori, Julien, dans un instant après la pause. D'abord ta minute musicale. C'est parti, on envoie la musique pour Julien Polo.
Electric Live Orchestra, le groupe de Birmingham des années 70, un des très bons groupes de rock de l'époque en Angleterre, avec It's Over, parce qu'on va parler de la retraite de James Milner, qui a annoncé donc sa retraite ce week-end à l'âge de 40 ans. On avait déjà parlé de lui, rappelez-vous, quand il avait battu le record de Gareth Barry pour le plus grand nombre de matchs en Première Ligue, 658 matchs. Il a commencé à 16 ans, ça fait donc 24 saisons de suite qu'il a évolué chez les professionnels à Newcastle, à Leeds. Vous vous rappelez de ses débuts à Leeds où il avait vraiment l'air très très jeune, à Aston Villa, à Manchester City, à Liverpool. Au total, 903 matchs en club dans toute sa carrière, toutes compétitions confondues, 61 sélections avec l'équipe d'Angleterre. Le professionnel du professionnalisme, en fait, si vous voulez. Incroyable, hygiène de vie, diététique, tout ce que vous voulez, tout le travail invisible dont on teigne les jeunes joueurs avec en disant faut faire ci, faut faire ça. Bah voilà, faut faire du James Milner si vous voulez durer dans le foot. Et cette longévité, elle est magnifique. Alors, It's Over, c'est un peu. T'as l'impression que c'est un peu négatif, mais pas du tout. En fait, c'est juste pour dire, bah voilà, c'est terminé, la belle aventure, la belle histoire. Une histoire de donc 24 ans chez les pros, à 40 ans, même s'il a, il a encore fait quelques bons trucs avec Brighton cette saison, mais je pense qu'il s'est dit, bah, 40 ans, c'est donc le, il était le cinquième joueur de l'histoire de la Première Ligue à encore jouer à l'âge de 40 ans. C'est tout simplement incroyable. Donc voilà, je pense qu'il mérite un très bel hommage, et pas que de nous ce soir, mais aussi, et l'aura de toute façon en début de saison, de la Première Ligue, de ses anciens clubs, parce que c'est quand même un dinosaure incroyable de la Première Ligue qui prend sa retraite à un moment où on en voit de moins en moins, ces joueurs-là, hein, qui restent comme ça jusqu'à aussi longtemps dans le jeu. Franchement, bravo à lui.
James Milner, le match de Julien aux joueurs anglais. Merci Julien pour ta bulle musicale, on apprécie le choix également.